Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler la suite de ma prédication de la dernière fois, il y a 2 semaines. J'avais prêché sur Naaman. Voilà, vous vous souvenez très bien, c'est bien, super. Pour résumer, c'était voilà, nous avons vu l'officier de la Syrie, Naaman, un homme de haut rang, respecté et puissant. Mais il souffrait de la lèpre. Il se tourne vers Dieu d'Israël en quête de guérison parce que, justement, suite à la recommandation d'une servante qui travaille pour lui. Et ensuite, Naaman se rend humblement chez le prophète Élisée. Élisée sort même pas à sa rencontre, mais il envoie un message tout simple en lui disant que « va et plonge-toi cette fois dans le Jourdain ». Et ta chair te reviendra et tu seras pur. Ici, nous voyons une leçon de foi pure et simple. Et Naaman, l'officier, et le général, on peut dire comme ça, le général, le chef d'armée, aurait pu, il obéit. Voilà, au départ, il avait un petit peu hésité. Et finalement, il obéit avec foi à l'instruction apparemment simple. Et le résultat était la guérison miraculeuse. Et puis, nous avons pu voir vraiment à travers son acte d'obéissance, son humilité et aussi l'attitude de repentance devant le Seigneur. Et ensuite, après la guérison, il se convertit complètement. Et on était arrêté au verset 15, dans 2 Rois, chapitre 5, verset 15, où il est écrit « Naaman retourna vers l'homme de Dieu ». Il est retourné vers Élisée, pas Élisée d'ici, mais Élisée de l'époque, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Donc après la guérison, il est tellement reconnaissant, il se convertit, mais aussi il apporte un présent qu'il avait apporté aussi, de préparer. Au verset 16, Élisée répond, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. » Donc là, il certifie qu'effectivement ce roi, ce Dieu qui l'a guéri est un Dieu vivant et que je n'accepte pas. Pourquoi ? Pas tout simplement parce que tout ce qu'il a pu réaliser, ou plutôt la guérison qu'il a pu expérimenter, était suite au travail de Dieu, pas lui qui a réalisé. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Oui, il a vraiment insisté pour qu'il prenne les présents, mais Élisée refuse. Je pense qu'il a voulu rendre gloire et l'honneur seulement à Dieu lui seul et pas lui. Et donc alors que Naaman offre des cadeaux en signe de gratitude. En tout cas, il les refuse catégoriquement, affirmant que la guérison vient du Seigneur lui seul. Voilà, donc c'était à peu près le résumé de ce que nous avons entendu la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire du serviteur de Élisée. À partir de verset 17, j'aimerais vous lire les deux premiers versets, 17-18. Alors, Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Voilà, c'est une histoire intéressante. C'est toujours encore l'histoire de Naaman qui dit, voilà, j'aimerais prendre un peu de terre. Un peu de terre. Il voulait prendre un peu de terre tout simplement parce que à l'époque, pourquoi il voulait prendre un peu de terre? Parce qu'il voulait ériger un lieu de culte au Dieu d'Israël parce qu'il a décidé de ne plus adorer aucun autre Dieu. Et Élisée accepte sa demande. C'est un moment de changement profond pour Naaman, montrant sa foi sincère et son engagement envers l'Éternel. On peut se demander, mais pourquoi il a pris la terre, à votre avis? Vous avez une idée ou pas? Non? Comment? Oui. Oui. Donc il a voulu justement prendre la terre sainte, un peu comme symbole, pour pouvoir aussi penser à Dieu. Mais c'est vrai qu'il y avait, selon l'opinion commune à l'époque, un Dieu ne pouvait être adoré que sur le sol du pays auquel il était lié. C'est pour ça qu'il avait pris. Mais bon, après, même s'il n'avait pas pris de la terre, il aurait pu, bien sûr, honorer là où il était. Mais en tout cas, il a quand même pris, et puis sa demande a été acceptée par Élisée, voyant sa foi véritable et authentique. Alors, il demande quand même d'avance son pardon à Élisée en disant qu'il va quand même se prosterner devant ce Rimmon, Rimmon qui est le dieu de tonnerre et de la pluie vénéré par les Syriens. Pourquoi? Parce que son maître allait justement se prosterner devant lui et à l'appui de Naaman, et donc il était obligé de se courber avec lui. Donc, veuillez m'excuser, ça c'est vraiment quelque chose de... Il demande déjà pardon pour ce qu'il allait faire, et c'est ce que Élisée aussi accepte. Donc on voit vraiment de côté de Naaman une conversion véritable. Lui qui était un Syrien. Et je vous rappelle que, encore une fois, quel est l'ambiance de l'époque en Israël, c'est qu'ils étaient idolâtres. Hein, ils étaient idolâtres. Les Israéliens, à l'époque, ne vénéraient pas vraiment Dieu. Une minorité vénérait Dieu. Et puis, d'un autre côté, on voit donc Élisée et Géasi, le serviteur. Donc, d'un autre côté, donc, nous rencontrons Géasi, le serviteur d'Élisée, témoin d'œuvres miraculeuses qui était toujours présent aux côtés d'Élisée, etc. On voit à partir de verset 20 son aveuglement par la convoitise. J'aimerais vous lire les 8 versets, versets à partir de verset 20 jusqu'au verset 27, que je vais vous lire lentement. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Ce qui est bizarre, c'est qu'il raconte encore: l'Éternel est vivant. Il intervient le nom de l'Éternel dans sa convoitise. Souvent, on fait aussi des prières au nom de Dieu, pour assouvir aussi nos convoitises. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va bien? Il répondit: tout va bien, mon maître, m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Donc déjà, il y a un mensonge. Naaman dit, consent à prendre deux talents. Donc il demande un talent et là, il propose deux talents. Il le pressa, il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donnant deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître Élisée, et Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à lui, à toi, et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voilà, jusqu'ici notre lecture. On voit bien le mensonge de Géasi. C'est une histoire assez intéressante. On voit vraiment le péché, la conséquence du péché de Géasi. On peut commettre des erreurs, n'est-ce pas? Cette semaine, j'ai commis aussi une erreur. C'est moi qui coupe mes cheveux. Et donc j'ai pris ma tondeuse, puis hop, j'ai fait ça. Puis vous voyez là, je me suis trompé de sabot. Voilà, je me suis trompé de sabot. Et donc après, j'ai voulu rattraper. Quand on commet une erreur, on est obligé. Donc c'est pour ça que c'est différent entre les deux. Hein. Donc voilà, c'est pas la faute d'un coiffeur, mais c'est moi. Quand on commet une erreur, on subit la conséquence, n'est-ce pas? Géasi, effectivement, lui, il a commis une erreur, c'est que il avait la convoitise en ayant vu tout cet argent devant lui. Et ensuite, à cause de sa faute, il devient lépreux. On peut se dire, mais Seigneur, c'est quand même un peu sévère. Bon, après, c'est vrai qu'il a convoité, il aurait pu peut-être le corriger et ne pas prendre cette maladie. Mais il a quand même été assez sévère. Pourtant, Géasi, serviteur d'Élisée, était quand même fidèle. Il était toujours au service d'Élisée. Il a été assistant lorsque la femme stérile, enfante un fils. Ce même fils, lorsqu'il est mort, il voit ressusciter à travers aussi l'œuvre du Seigneur. Enfin, il a quand même fait pas mal de choses à côté d'Élisée pour rendre service. Cependant, voilà, la conséquence était quand même terrible. Parfois, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de conséquences. Est-ce que vous vous rappelez l'épisode où Élisée était moqué par les jeunes gens? En disant que tu as la calvitie, tu es chauve, hein? Et ensuite le Seigneur envoie des ours pour les déchirer, alors que ils se moquaient de lui. Et ça, c'est on a du mal à comprendre. Enfin, on a encore des explications à donner, mais enfin, je ne vais pas entrer dans la profondeur, juste pour dire que parfois on ne comprend pas. L'histoire d'Ananias et Saphira, aussi, on a du mal à comprendre. Ils avaient promis de donner à l'Église leurs biens après avoir vendu leurs terres. Et puis, ils changent d'avis après avoir mis de côté, un certain somme d'argent avant d'apporter le reste à Pierre. Et suite à ce mensonge, ce couple meurt sur place, subitement. Parfois, on a du mal à comprendre cette sévérité de la conséquence de notre péché. Mais après, on se dit, mais on est trop habitué à la grâce de Dieu. Hein? C'est pour ça qu'on ne voit pas vraiment la vraie conséquence du péché. La vraie conséquence du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on ne se rend pas compte vraiment. Et puis on revient en tout cas à l'histoire de Géasi. Comme je vous avais dit, il a toujours été présent à côté d'Élisée, lui qui a réalisé tellement de miracles. Il a vu des miracles, il a assisté des miracles. Pourtant, il n'a pas retenu des leçons de sa situation favorable. Géasi, au verset 20, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Il était serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Et il a même assisté lorsqu'il y a eu ce miracle, quand le potage immangeable devient mangeable. Il a vu aussi la multiplication des pains. Quand Élisée arrive à nourrir avec 20 pains d'orge qui nourrit centaines de personnes, et le reste, et il y a eu beaucoup de restes aussi. Et puis il vient d'assister surtout le miracle de Naaman, mais voilà, en voyant l'or, en voyant ce bien, il change d'avis. Est-ce que vous vous rappelez quelqu'un qui a toujours été avec une personne et qui n'a pas pu changé. Comment? Judas, oui, Judas, effectivement. Judas a aussi accompagné le Seigneur pendant 3 ans et il a été trésorier, hein, donc assez méticuleux. Il a vu, entendu le ministère, les miracles, la puissance de Dieu, ce qui s'est manifesté à travers son maître Jésus. Mais il n'avait pas changé, il n'avait pas changé. Ce qui est encore regrettable, c'est que ce Géasi qui a assisté tellement de miracles, si on compare avec les serviteurs de Naaman, c'est un peu regrettable. Je reviens encore à l'épisode de Naaman. Quand Naaman, après avoir entendu qu'il fallait se plonger 7 fois dans le Jourdain, il a dit « Ah non, je ne veux pas, hein, on a encore de l'eau, des rivières plus pures chez nous, hein, pourquoi faire ici dans de l'eau boueuse ?» Et à ce moment-là, les serviteurs de Naaman disent, ces serviteurs s'approchèrent pour lui dire, au verset 13, ils dirent « Mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » On a l'impression qu'ils ont la foi. Lave-toi et tu seras pur. Alors que, voilà, ces serviteurs ne connaissaient pas vraiment Dieu, mais finalement, ils ont été sages conseillers pour Naaman. Alors que Géasi, lui qui a toujours assisté plein de miracles, il n'a pas pu voir vraiment la main du Seigneur se manifester. Et ce Géasi n'a pas pu surmonter sa convoitise quand il voit 10 talents d'argent, parce que c'est le Syrien avait apporté 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or, 10 vêtements de rechange, ce qui correspond à peu près des millions d'euros, si on correspond. À peu près, j'ai calculé, c'était à peu près 4 millions d'euros, hein, etc. Donc imaginez, vous avez devant vous 4 millions d'euros qui est proposé gratuitement et votre maître refuse. Et enfin bref, il n'a pas pu maîtriser cette convoitise. Et couronné de tout, bon, après il va aller voir Naaman pour demander, en lui racontant un mensonge. Et puis, il dit au verset 22, tout va bien, « Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Ils ne demandent pas tout, mais une partie. » Et donc, ce mensonge est en train de tout gâcher, le témoignage que son maître qui avait montré avec la guérison. Il est en train de gâcher, en fait, le témoignage de Dieu. Le plus important est d'honorer Dieu, mais là il continue à mentir. Au verset 24-25, arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il renvoyait ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Après avoir rencontré Naaman, il revient auprès de son maître et Élisée lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Là, il donne en fait une opportunité pour qu'il se repente. C'est ça qui est en fait formidable, parce qu'il ne culpabilise pas, il ne donne pas beaucoup, dès le début, des remontrances pour appuyer sur ses fautes, mais il donne une occasion pour se repentir. De même aussi, le Seigneur nous donne cette période de grâce pour qu'on puisse se repentir humblement et véritablement. La différence, en tout cas, il a perdu l'occasion de se repentir. Et là, il ment encore. Vous savez, le mensonge produit un autre mensonge. Et donc, il continue à mentir. Et Élisée savait très bien ce qu'il avait fait. Il ne saisit pas, en tout cas, Géasi ne saisit pas cette occasion pour se repentir. On voit aussi, à travers cette histoire, des gens qui se sont repentis et qui ne se sont pas repentis. C'est l'histoire de Pierre et de Judas Iscariot. Pierre aussi, il avait renié 3 fois Jésus. Judas aussi, il avait vendu son propre maître. Mais la différence, c'est que Pierre, lorsque on lui pointe le doigt son péché, il se repent. Alors que Judas, lui, il a seulement des remords. Remords. Et il se pend. Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Il a tout vu par l'Esprit de Dieu. » Et devant cette deuxième chance, il aurait pu en tout cas demander pardon, Géasi, mais il a perdu cette chance. J'aimerais conclure lorsque nous voyons les expériences, lorsque nous voyons l'histoire de Géasi, on se dit que c'est un peu triste, parce qu'il a vécu tellement de choses avec le Seigneur, il a pu expérimenter tellement de miracles avec le grand prophète Élisée, mais il n'a pas pu retenir des leçons. Et lorsqu'il y a eu une tentation, il a succombé à la tentation. Et puis, il a pu aussi se repentir, parce que Dieu lui a donné l'occasion de se repentir, mais il ne l'a pas fait. Et c'est à ce moment-là qu'il a été jugé et reçu des malédictions, la malédiction de la part du Seigneur. De même, à travers cette expérience que nous pouvons voir, ce n'est pas parce que nous sommes à l'Église depuis des années que nous pouvons ne pas succomber à la tentation. Il y aura toujours des moments de doute, des moments difficiles. On doit être sur notre qui-vive pour surmonter toutes ces choses. Et puis, même si nous tombons, il y a toujours des occasions pour se rattraper, pour se repentir et revenir auprès du Seigneur humblement, comme a fait aussi Naaman, qui au départ était très hautain, mais à travers aussi cette plongeon, il s'est humilié devant le Seigneur. Le Seigneur demande aussi vraiment de nous humilier davantage devant le Seigneur. Le prophète Élisée faisait des prodiges extraordinaires dans le but de prouver que l'Éternel seul est Dieu. Et que cet acte miraculeux était un immense privilège accordé à son peuple. Mais il fait grâce aussi à un étranger, un Syrien, pour aussi peut-être faire comprendre aux Israélites comment aussi un étranger peut se convertir. Et là, il est en train d'invoquer, ou plutôt d'exciter, de provoquer à l'Israël de revenir encore auprès du Seigneur. Dans ce message, il y a beaucoup de demandes de repentance, d'humilité devant le Seigneur. De même, que nous puissions vraiment nous humilier davantage, et aussi, sachant notre nature pécheresse qui est toujours là, parce qu'on est encore sur cette terre, que nous puissions vraiment nous rappeler qu'il est important qu'il peut y avoir toujours des occasions de chute, mais qu'on puisse vraiment veiller jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Je vous invite à la prière.